Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Noël en visioconférence, et si ce n'était pas une blague?
C'est la proposition très sérieuse de l'OMS, on va détailler ça dès le début de ce journal. À la une également, la grosse colère de Gérald Darmanin après l'évacuation musclée d'un campement de migrants hier soir à Paris. Et puis Donald Trump se résout à contre-cœur à lancer la transition avec l'équipe de Joe Biden.
RTL Matin.
Noël en visio, on en plaisantait, ce sera peut-être une réalité. C'est en tout cas ce que préconise l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS. Bonjour Sophie Ranche.
Bonjour à tous.
Pour la chargée de gestion de la pandémie auprès de la célèbre agence, ce serait en tout cas la solution pour éviter tout risque.
Alors pas la solution idéale, on est bien d'accord, mais l'option la plus sûre. On se rattrapera plus tard, dit-elle, avec toujours la même crainte, un chapon, du foie gras, des huîtres et on enlève son masque avec les risques qui vont avec. On le sait, des mariages, des réunions de famille, des anniversaires ont généré des clusters depuis le printemps. Mais pour éviter les frustrations, le ras-le-bol, les critiques, chaque famille peut inventer de nouvelles idées pour fêter Noël, plusieurs temps à 5 ou 6 en ouvrant ses fenêtres au lieu d'un seul repas à 25. Et cette année, le Père Noël peut pourquoi pas cacher ses cadeaux dans le jardin, au pied du sapin ou dans la forêt. Équilibre fragile entre la joie de Noël, l'envie de liberté, de relâchement, sans que le virus se déchaîne, dit l'OMS. Le Premier ministre Jean Castex le dit autrement, Noël ne doit pas être une usine à Covid.
Merci beaucoup Sophie Orange. On verra ce que préconisera de son côté ce soir Emmanuel Macron qui va annoncer un allègement très progressif des restrictions de circulation. Notez déjà qu'en décembre, tous les trains devraient circuler puisque la SNCF, c'est une info RTL, vient de recevoir l'ordre du gouvernement de remettre sur les rails toutes ces rames qui étaient à l'arrêt depuis le début du reconfinement. Jusqu'où pourra-t-on se déplacer? Le rayon d'un kilomètre sera-t-il maintenu? Les amateurs de jogging qui semble à chaque fois plus nombreux en période de confinement, vous l'avez remarqué, c'est bizarre, espère un assouplissement. Reportage en basket d'Étienne Baudu à Marseille.
Écoutez, il y a celles et ceux qui se conforment strictement au règlement, oui, il y en a, j'en ai croisé, comme Coralie, essoufflée et qui n'est pourtant pas partie bien loin de chez elle.
On fait le tour des pâtés de maison et on fait toujours le même parcours en fait, on va pas plus loin.
Et puis il y a les autres qui trichent un peu avec le kilomètre et l'heure de course. Romain aligne les tours au parc Borély en bord de mer, mais ça lui arrive d'aller un peu plus loin.
Je cours souvent dans les calanques, je pars très loin, je vais jusqu'à Cassis. Des fois, je pars 2, 3, 4 heures.
Et quels que soient les joggeurs rencontrés, hein, tous comme Lilia et Yacine, attendent vraiment un assouplissement des règles.
Ce serait quand même mieux de sortir sans avoir l'appréhension de se faire arrêter en plein milieu d'une course pour nous dire vous avez l'attestation, vous pouvez la sortir, tout ça, tout ça.
On a quand même un cadre très très limité, donc pour moi c'est inapplicable. Honnêtement, c'est pas possible de continuer comme ça.
Et tous écouteront sans doute ce soir attentivement le président.
Reportage d'Étienne Baudu à Marseille.
L'intervention d'Emmanuel Macron à 20h sera à vivre en direct sur RTL avec une analyse dans la foulée.
Le chef de l'État qui devrait aussi évoquer la stratégie du gouvernement pour la vaccination. Trois vaccins, dont celui de Pfizer-BioNTech, sont en ce moment en cours d'homologation. L'Agence européenne du médicament se dit prête à donner son feu vert d'ici la fin de l'année au début 2021. Depuis des mois, avec ce fichu virus, nous avons appris à vivre différemment dans des villes tournant au ralenti. Une image évoque sans doute à elle seule le coup d'arrêt vécu dans les grandes métropoles. À Londres, les célèbres taxis noirs en mal de clients rouillent dans des champs en attendant des jours meilleurs. Écoutez ce reportage de Marie Billon.
Paolo se faufile difficilement entre les taxis noirs. Ils sont garés si serrés les uns contre les autres dans ce champ loué à un fermier qu'il a du mal à avancer.
C'est ce qu'on appelle désormais un cimetière à taxi. Il y a un peu plus de 200 véhicules entassés ici. Et la nature reprend ses droits avec les mauvaises herbes qui poussent tout au long des châssis.
Des cimetières de black cabs, il y en a plusieurs autour de la capitale. Les chauffeurs qui sont propriétaires de leurs véhicules ne sont pas mieux lotis dans la petite rue résidentielle. Où vit Rob, chauffeur depuis 5 ans, il y a presque 10 taxis garés devant des petites maisons.
Ces dernières semaines, quand j'allais travailler dans le centre, j'ai dépensé plus en essence que ce que j'ai gagné. Il n'y avait juste personne dans les rues, c'était désert, complètement désert.
Rob a décidé de ne pas travailler les 10 jours restants du confinement, petites vacances avant une légère reprise, car sans les touristes, dit-il, il restera en partie désœuvré.
Marie Billon.
Il est 8h04, Gérald Darmanin se dit choqué par les images de l'évacuation d'un campement de migrants hier soir à Paris.
Un campement de 500 tentes venait de s'installer place de la République. Les CRS sont rapidement intervenus sous l'œil des caméras, gaz lacrymogène, gestes brusques. On a notamment vu des tentes arrachées alors qu'elles étaient encore occupées. Le tout sous les cris de militants associatifs. Le ministre de l'Intérieur demande un rapport au préfet de police de Paris pour la mi-journée. « Je prendrai des décisions dès sa réception », écrit-il Martial sur Twitter. Bonjour Laura Mauchi.
Bonjour.
D'abord, qui sont ces migrants, 500 migrants? Comment se sont-ils retrouvés là en quelques heures au cœur de la capitale?
Eh bien, il s'agit en grande majorité d'hommes afghans qui faisaient partie du camp de fortune de Saint-Denis évacué mardi dernier. Sur les 4000 migrants présents, entre 500 et 1000 n'ont pas réussi à monter dans les bus qui les emmenaient vers des hébergements d'urgence. La situation était déjà tendue alors que la plupart du temps, ces opérations se passent relativement dans le calme. Et hier soir, ils ont décidé de s'installer en plein centre de Paris pour réclamer des hébergements.
Alors, il y a eu près de 70 évacuations de campements depuis 2015. On voit que ça ne résout rien.
Eh bien non, les associations parlent d'un cycle destructeur sans fin des évacuations, car quand les camps sont évacués, il y a plusieurs possibilités. Déjà, comme la semaine dernière, des migrants qui n'ont pas de place, les familles les plus vulnérables étant prioritaires. Ensuite, les hébergements d'urgence dans des gymnases ou centres spécifiques sont de courte durée, parfois quelques mois, mais souvent quelques jours, car une partie des migrants a déjà fait une demande d'asile dans un autre pays. Dans ce cas, impossible de faire une nouvelle demande en France avant une période pouvant aller jusqu'à 18 mois. Autre possibilité, des hébergements loin de Paris et donc loin de leurs proches sont proposés. Et à ce moment-là, beaucoup de migrants refusent et se retrouvent de nouveau à la rue.
Laura Mauchi, on vous retrouve, Olivier Bost, éditorialiste politique à RTL. On rappelle ce tweet hier soir de Gérald Darmanin. Il a jugé les images de l'évacuation choquantes et il demande un rapport au préfet de police de Paris. On peut s'étonner quand même de la réaction rapide et courroucée du ministre.
Ben non, parce qu'il faut bien comprendre le contexte de ce tweet. Gérald Darmanin a cette nuit désigné un fusible. Il veut des explications sur ce qui s'est passé et donc des responsables avant midi. Et il promet des décisions immédiates, c'est-à-dire avant le vote ce soir à l'Assemblée nationale de la loi dite « sécurité globale ». Ce qui s'est passé hier soir, même si on le doit à des activistes de gauche, vient malheureusement, pour le ministre de l'Intérieur, illustrer à merveille toute l'ambiguïté de cette loi. Car voilà, la diffusion de ces images choquantes, comme les qualifie Gérald Darmanin, pourrait demain amener devant un tribunal parce qu'elle porte préjudice aux forces de l'ordre. Hier, des policiers ont encore empêché des journalistes de travailler. Gérald Darmanin, figure de l'autorité pour le gouvernement, est pris à son propre piège. Les syndicats de policiers lui avaient demandé de ne plus être filmé en intervention. Et il leur a dit oui.
Merci beaucoup Olivier Bost. Et les dossiers s'accumulent décidément pour Gérald Darmanin, puisqu'on l'apprend à l'instant, la défenseure des droits, dans une décision adressée au ministre de l'Intérieur, demande des poursuites disciplinaires contre les policiers qui avaient interpellé violemment un homme de 22 ans, Théo, à Aulnay-sous-Bois. C'était en février 2017.
Dans un instant, Donald Trump, enfin prêt à donner les clés de la Maison Blanche à Joe Biden, enfin, du bout des doigts et avec des gants. A tout de suite.
RTL Matin.
Avec Yves Kell.
RTL Matin.
RTL 8h08, la suite du journal de Jérôme Florin. Aux États-Unis, Donald Trump fait un pas vers Joe Biden.
Il ne prononce pas encore le mot de défaite, encore tabou, mais il se dit prêt à engager la transition avec celui qui lui succédera en janvier. Et c'est déjà un grand pas, Lionel Gendron.
Donald Trump est trop en colère pour appeler Joe Biden et concéder sa défaite. Il a donc donné son feu vert via Twitter. Il demande aux services généraux de l'administration d'engager les protocoles. Implicitement donc, la transition débute enfin. En annonçant une partie de son gouvernement hier, Joe Biden avait montré qu'il allait de l'avant. Mais désormais, il sera briefé sur les sujets les plus sensibles. Son équipe va pouvoir travailler sur la crise sanitaire, notamment la campagne de vaccination. Plus de 6 millions de dollars lui seront alloués pour commencer à payer les salaires et les déplacements. Donald Trump était cerné. Dans son camp, les soutiens se fissuraient. Des géants de l'économie comme General Motors le lâchaient. Et juste avant son tweet, on apprenait que le Michigan validait les résultats de l'élection. Le président en exercice précise tout de même qu'il continue son combat, qu'il qualifie de juste.
Lionel Gendron à Washington pour RTL.
Alors le football avec un PSG sous pression.
Fragilisé par deux défaites en trois journées, les Parisiens retrouvent Leipzig ce soir en Ligue des Champions. Ils doivent l'emporter sous peine d'être quasi éliminés, Philippe Sanfourche.
Oui, il y a déjà un peu le feu dans la maison parisienne. Le dernier finaliste battu par Manchester et Leipzig. Pour Thomas Tuchel, entraîneur en grand danger ce soir en cas de scénario contraire. Il est l'heure d'invoquer le passé et le parfum des grandes soirées européennes.
On a fait un grand match contre Dortmund, contre Liverpool. On a le droit d'avoir confiance en nous. Et voilà, c'est en finale.
Avec le retour du duo Mbappé-Neymar, avec un Marquinhos enfin replacé à son poste de défenseur central. Le capitaine qui combat l'idée d'une équipe rassasiée par une saison quasi parfaite l'an passé, avec cette finale de Ligue des Champions.
D'abord, on n'a pas gagné. Nous, on est des compétiteurs. On sait que ce n'est pas facile. Ce n'est pas avec un claquage des doigts qui tu vas arriver en finale des Ligues des Champions.
Marquinhos qui avait été le détonateur cet été, premier des trois buteurs contre Leipzig déjà. Ce soir, ce ne sera pas pour une place en finale, mais pour rester en vie dans cette Ligue des Champions.
Philippe Sanfour.
PSG Leipzig, coup d'envoi 21h, à vivre en intégralité sur RTL, dans la foulée de l'émission spéciale consacrée à l'intervention d'Emmanuel Macron et l'analyse de Luis Fernandez en direct dans ce studio. Dans moins de 10 minutes, il a déjà largement débriefé avec Michel Simès. On termine avec l'histoire du jour.
Loin de moi l'envie de vouloir concurrencer Anthony Martin, mais oui, je voudrais quand même vous faire écouter moi aussi ma pépite.
Musique.
Je vous présente le futur chef de la diplomatie américaine.
Non.
Si. Anthony Blinken, qui a été nommé par Joe Biden.
C'est lui qui chante ?
C'est lui qui chante et qui joue de la guitare, figurez-vous. La chanson s'appelle Patience. Le futur secrétaire d'État aime aussi le rock et le blues. On pourra lui suggérer d'apporter sa guitare pour animer les G20. Ça aidera à passer le temps.
Nous aurons une toute autre ambiance qu'avec le président Trump, en tout cas.
Ça va changer. Et c'était le journal de G20.